moins que tu veuilles rester 8 heures ici. À moins que tu veuilles rester 8 heures ici en intérieur.
Bien, mesdames, messieurs, dames et messieurs, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, voilà, merci d'être là. Je remercie tout spécialement les panélistes qui se sont joints à nous aujourd'hui. Vous savez que dans la procédure que nous avions déterminée, il y avait ce moment où le ministre fonctionnel, qui est évidemment le ministre Pascal Smet, vienne réagir, vienne réagir à ce qui a été le fruit de notre et de votre travail surtout, en rappelant l'originalité du processus que nous avons entamé, qui a été quand même validé. Et donc, vous remercier, les panélistes ont pris ce travail à cœur. Ils se sont investis, je pense, dans cette démarche, au-delà de ce que nous espérions d'ailleurs. Et je crois que c'est un travail de qualité qui a été accompli. Hein, et que Will van der Gelegen Heidebreuk mag om ook de ambtenaren van het parlement te bedanken. Ze hebben aan dit project meegewerkt. Wel bedankt. Ik denk dat het een eerste ervaring is, maar we hebben een nuttige ervaring opgedaan. Ik denk dat wij natuurlijk een dergelijke initiatieven nog moeten op touw zetten en organiseren. Je pense qu'il convient aussi de remercier, bien sûr, Parti Sidis et de remercier Dimitri Le Maire qui est là, je crois, ben voilà, il me semble bien que je l'avais vu. Je veux aussi saluer et remercier les groupes politiques qui ont soutenu ensemble cette initiative. On ne va pas revenir évidemment sur le détail de toutes les propositions. Monsieur le ministre est là pour y répondre, mais je pense que nous avons fait aussi l'expérience d'un dialogue et d'une certaine pédagogie, c'est-à-dire qu'on se rend compte très vite qu'il ne suffit pas d'évoquer un thème, faut-il encore pour apporter des initiatives, des réponses à des problèmes, faut-il encore que tout un processus puisse être mis en place pour pouvoir échanger de l'information. Il y a donc aussi de la pédagogie dans un exercice comme celui que nous avons mené, parce qu'il y a un échange, il y a des informations qui sont fournies pendant le processus. Et we hebben ook tijdens de plenaire zitting de aanbevelingen besproken en hebben unaniem besloten deze over te brengen aan de regering. En dat was natuurlijk onze doelstelling. Maintenant, le ministre vient en parler et je pense que on aura en tout cas vu que c'est très difficile en démocratie de cliver des questions, de cliver les opinions avec des questions simples. C'est parfois beaucoup plus nuancé qu'on ne pense après l'examen des propositions parce que chacun contribue justement à nourrir la crédibilité des propositions venant en disant voilà, ça c'est pas possible sauf si, et il faut certaines conditions rassemblées pour faire cela. Oui, mais on oublie un élément statistique, une étude de référence qui peut nous éclairer. Mais ça montre bien qu'un processus de décision, s'il veut impliquer les citoyens, est un processus de décision qui prend un peu plus de temps, mais c'est ce que nous pouvons espérer pour des prochains panels, c'est justement de réitérer cette méthode de travail. Nous ferons un rapport de cette expérience. Donc c'était déjà en guise de conclusion ce que je voulais vous dire tantôt, de manière à ce qu'il reste une trace, à la fois bien sûr de la méthodologie choisie, hein, de Werkwijs is zeer belangrijk, maar ook de inhoud natuurlijk van de aanbevelingen, de antwoorden van de minister. Et pour le reste, il faudra choisir évidemment plus tard des thèmes. Ça n'est jamais facile. Nous n'avions pas pris le thème le plus facile ici parce que c'était un thème d'une brûlante actualité, mais qui a évidemment entraîné un risque de clivage peut-être plus net encore que par rapport à certains thèmes. Et j'ai bien vu pendant le processus participatif des rapprochements, hein, qui peut de tun Abring, du Standpunkten vastgestellt, dus gezien dat, allez, dit proces was ook een gedachte uitwisseling tussen de panelisten en tussen de ambtenaren en de panelisten. Merci en tout cas d'avoir animé tout ça jusqu'à présent. Et maintenant, je laisse la parole à Monsieur le ministre qui va donner son avis, son commentaire sur à la fois les constats, mais aussi les propositions et recommandations qui sont reprises dans le rapport. Pardon ? Oui, excuse-moi, je savais pas.
Monsieur le Président, oui, voilà.
Est-ce qu'il y a des rapporteurs ? Oui.
Si vous êtes d'accord, j'aimerais que je souhaiterais qu'on désigne des rapporteurs. Oui. Et si on pouvait rester dans la continuité de ceux qui ont été désignés dans le cadre de nos travaux, ce serait plus logique, à savoir M. Lowenstein et M. Delisle.
Écoutez, je pensais que ça allait de soi, mais c'est bien de le répéter. Eh bien, voilà. Ben oui, puisque le premier rapport avait été fait par eux. Donc, je pensais que ça s'était acquis. Mais comme ça, c'est au moins sûr et définitif et pas remis en question. Merci, messieurs les rapporteurs. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Merci, monsieur le président. D'abord, je voudrais me joindre à vous pour remercier les gens. Je sais que certaines, puisqu'on m'en parlait, ont regretté un peu que je n'étais pas présent à la présentation de leurs conclusions. Mais comme j'ai eu la chance de dire à certaines entre vous individuellement, je n'étais pas invité. Et I'm not a party crasher. Et par conséquent, je n'ai pas pu être là au moment que les conclusions étaient présentées, puisqu'on n'était pas ni invité ni informé de ce moment-là. Ça, c'est la simple raison pour laquelle je n'étais pas là. Sinon, j'étais sans doute présent. Je crois c'est en effet un travail important qui était fait et Monsieur le Président, vous vous souvenez, quand vous avez parlé de ça la première fois, on a vous encouragé de le faire et en plus qu'on pourrait l'inscrire dans le processus de rédiger le nouvel plan régional de mobilité, Good Move, hein, dans lequel le gouvernement travaille et que dans les mois qui viennent, on doit normalement adopter en première lecture. Et il va de soi que les conclusions qui sont sorties de cette panel citoyen seront vivement prises en considération, autant plus que personnellement j'estime que ça s'inscrive dans la ligne générale que le gouvernement poursuive, et moi en particulier, puisque parfois on va plus loin, mais je reviens tantôt sur le contenu. Avant d'aller un peu plus en détail sur les cinq points, je voudrais quand même dire deux ou trois remarques préalables. D'abord, j'ai bien remarqué que toute la philosophie qui est sortie du panel citoyen est de soutenir un peu le credo que ce gouvernement prend vraiment très sérieux, vu aussi parfois la réaction d'une partie de la population, c'est de transformer Bruxelles from a city for cars to a city for people. Hein, je crois ça, c'est ce que le gouvernement fait. Ça ne fait pas toujours l'unanimité. On ne doit pas s'appeler, vous êtes en Nederlands, vous êtes elkaar niet Lisbeth noemen. Je ne sais pas comment on dit ça en français. On ne doit pas s'appeler Lisbeth, ça n'existe pas. Mais en néerlandais, il y a une expression, vous êtes elkaar niet Lisbeth noemen. Ça veut dire que ce n'est pas toujours facile, tout va bien, hein, c'est comme ça. Mais cette transformation est nécessaire et j'ai bien senti, ou j'ai bien senti cette philosophie à laquelle, évidemment, moi personnellement, mais aussi le gouvernement dans sa globalité, vu la politique qu'on a menée les quatre dernières années, s'inscrivent dedans. C'est-à-dire un rééquilibrage des espaces publics au profit des modes actifs, piétons, cyclistes, transports publics, et puis la voiture, aussi la réduction de la pression automobile, important, les investissements dans le transport en commun, 5,2 milliards d'euros dans une période de 10 ans, qui est beaucoup de l'argent et qui est décidé et qui est en train de se réaliser d'ailleurs. Aussi la réalisation de 80 km de pistes cyclables sécurisées et séparées. Et encore une fois, très important, je pense, aménagement public qualitativement. Mais permettez-moi quand même dire deux remarques de nouveau sur les expériences que moi j'ai eu les quatre dernières années, pour la deuxième fois, puisque pas grand-chose est fondamentalement changé, c'est qu'on peut évidemment faire des choses à Bruxelles. Il va de soi, hein, on a la compétence, mais la vraie problématique est quand même que chaque jour on est envahi, puisqu'on ne peut pas difficilement l'autre m'en décrire, envahi par les nafteurs qui viennent massivement en voiture. Que les nafteurs viennent, c'est une bonne chose, puisqu'on a une capitale, c'est bien pour l'économie, et ça, on ne peut pas être contre. Mais pour plusieurs raisons, et on ne doit pas trop élaborer, la fiscalité fédérale, qui promouvoit vivre à la campagne, le réseau éternellement retardé, hein, le RER, qui prend du temps, le statut des voitures de société, un modernisme du passé mal compris, et avant la création de la région, une gouvernance de cette région très faible, enfin c'était pas encore une région de 19 communes très faible, qui en fait en sorte que la vision utilitaire que la Belgique avait à l'époque a mené à tout pour la voiture et peu les gens, et dans laquelle on souffre encore aujourd'hui, hein, on ne peut pas le nier, et que beaucoup de réponses se trouvent pour Bruxelles, en réalité, en Flandre et Wallonie, puisqu'une grande partie de ce mouvement commence en Flandre et en Wallonie, et ça veut dire qu'on a besoin de trois autres ministres de la mobilité, et pas seulement le ministre de la mobilité, aussi le ministre de la fiscalité, pour résoudre l'enjeu. C'est le ministre de la mobilité wallon, flamand et fédéral. Hein. C'est déjà quelque chose qu'il faut quand même pas sous-estimer, puisque beaucoup de réponses, et je reviens tantôt plus en détail, se retrouvent aussi sur des autres niveaux de pouvoir à laquelle on peut essayer de travailler ensemble. Et vous savez, suite à la crise du tunnel, on a pris l'initiative de remettre tous les ministres de la mobilité de nouveau autour de table. C'est suivi par M. Bulot. Et maintenant, chaque deux mois, autour de deux, trois mois, pendant cette législature, puisqu'avant c'était presque pas le cas, hein, les ministres de la mobilité se rencontrent de nouveau et essayent de collaborer plus ensemble. Et dans ce cadre-là, on était d'accord d'ailleurs, et on a travaillé ensemble, que le ministre Bulot, qui est le ministre fédéral, a chargé un consultancy firm de développer une sorte de plan interfédéral de la mobilité. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose de très important à savoir, qu'on travaille entre les différents ministres de la mobilité sur ce plan. Deuxièmement, évidemment, ça c'est interne à Bruxelles, la région, les 19 communes, 6 zones de police, ça a quand même des problèmes, hein, de cohérence de messages, ça mène quand même à des problèmes parfois de différentes politiques, on ne peut pas le nier. Je réfère par exemple à faire la piste cyclable qu'on est en train de réaliser à l'avenue Franklin Roosevelt, où une petite partie de la population, excitée par la politique, est ensemble allée vers le tribunal contre une piste cyclable. Ça, c'est seulement presque à Bruxelles que ça peut se faire. Mais quand même, hein, ça c'est fait. Et ça montre que ce n'est pas toujours évident dans cette région non plus, il faut le reconnaître, même qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, qu'il y a quand même une, comment on dit ça, un poids de freinage parfois pour une politique efficace. Et ça ne se traduit pas seulement dans les niveaux de pouvoir, permettez-moi de dire aussi, parfois dans les partis politiques présents dans cette région, présents ici, internes, il y a des différentes opinions parfois aussi vis-à-vis toute la problématique cyclable, stationnement et présence, transport en commun, on peut encore parler. Je pense que c'est important de le souligner au début, le cadre dans lequel on est contraint de travailler et qu'on doit connaître les limites et les défis. Même que ça ne nous empêche pas d'avancer, mais ça demande parfois d'énergie négative ou ça peut parfois ralentir les choses. Je pense que c'est important de dire ça comme remarque préalablement. Et dans ce cadre-là, c'est évidemment très important le travail que le panel a fait, puisque ça veut dire que, puisque vous êtes d'une certaine manière aussi l'émanation de la population, qu'il y a une volonté de continuer et peut-être encore plus aller, d'approfondir encore cette transformation d'une ville pour des voitures vers une ville pour des gens. En in dat opzicht denk ik is het dan ook zeer belangrijk dat we dat verder kunnen doen en zullen dus jullie conclusies meegenomen worden in de opmaak van het plan. Laten we dan nu in detail al een beetje reageren. Laat me zeggen dat met de twee voorbehouden die ik gemaakt heb, hè, dat over de grote lijn, wat mij betreft zelfs in detail, op zich geen problemen zijn. Dat er natuurlijk tussen de verschillende partijen, als er straks wordt gesproken, zullen we dat ook horen, soms in de partijen zelf, nuances zijn over uitspraken. Ik kom daar zo'n beetje op terug, of aanbevelingen die gegeven worden. Over de communicatie. Denk ik dat er inderdaad juiste vaststellingen worden gemaakt. We hebben geprobeerd tijdens deze legislatuur daar antwoorden op te geven. De website van Brussel Mobiliteit is herzien, is er vorm. Er wordt nu samengewerkt met de privé en de uitwisseling ook van data wordt daar mogelijk gemaakt. Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar Citymapper, als je kijkt naar Google Maps, als je kijkt naar John John die binnenkort gaat actief zijn, of als je kijkt naar HereNow. Je hebt heel wat privé-applicaties die u eigenlijk vanuit een behoefte tot verplaatsing, à partir d'une volonté de se déplacer, de donner toutes les possibilités qui sont possibles, soit en vélo, vélo partagé, soit même Uber ou taxi, même transport en commun, mais sous les différentes formes, différentes communications, à pied, tout ça existe déjà aujourd'hui et on a encouragé pendant cette législature avec le privé de travailler ensemble et même forcer parfois les opérateurs publics comme la STIP de mettre le data open. Ah, à ce moment-là, le open data est acquis, ce n'était pas au début de la législature, maintenant c'est ce fait qui permet de donner des informations in real time. On essaie, comme vous avez demandé, aussi faire des campagnes de sensibilisation. Je pense tout ce qu'on fait dans le cadre de la semaine de la mobilité, chaque année de nouveau. On a lancé toute la campagne Bike for Brussels, ensemble avec les associations vélo, les vendeurs de vélo, avec tous les acteurs vélo, pour justement mettre Bike for Brussels comme motif, leitmotiv en avant. Et aujourd'hui, ce matin, vous avez peut-être vu, hein, c'est aussi une de vos demandes que vous avez demandé. On a, avec les 5 opérateurs privés du co-sharing et nous, la région, on a développé une campagne commune, pillée ensemble, privée et publique, pour promouvoir le car sharing à Bruxelles, car share experience, the summer experience. C'est aujourd'hui, ce matin, lancé, justement faire en sorte que les alternatives qui sont là sont utilisées. Mais vous avez raison, il y a encore de travail à faire. Aussi avec la SNCB, par exemple, on a essayé de bien travailler ensemble. On a déjà fait des maps maintenant ensemble du S-Bahn, comme un peu le cas de Berlin, hein, S et U-Bahn, notre métro, le M et le S, qui est le RER rebaptisé, où il y a des offres conjointes qui sont publiées. Il y a encore là aussi un travail à faire. Mais au moins, on parle maintenant, on essaye de travailler avec le SNCB. Ça reste une vieille dame, hein, si je peux le dire comme ça. Mais quand même, elle commence à bouger un petit peu. Ils sont un peu stram, de spieren, maar ze komen toch al wat losser. Dus ik hoop dat we ook verder in die weg kunnen gaan. Misschien belangrijk om mee te geven ook is dat je merkt dat ook in de privé, maar ook in andere steden, ook al zijn we daar niet op de lead op dit moment, maar dat heel het concept van mobility as a service, dat het niet meer een doel op zich is, maar dat het een dienstverlening wordt, dat dat de toekomst is. En dat je merkt ook dat de privé-operatoren, ik heb al verwezen naar John John, die daar toch, of John John, zoals je het wilt noemen, John, whatever you want to pronounce it, John, pas John John, John John, qu'avec eux, on va quand même avoir tout intégré dans une plateforme et plus loin dans le temps avec une carte. Alors oui, sur tout ce qui est communication, on a déjà fait des choses, mais on peut encore aller plus loin, je suis tout à fait d'accord. Sur la question aussi de rendre les gares S beaucoup plus visibles dans l'espace public, je suis tout à fait d'accord, c'est la raison pour laquelle on a travaillé ensemble avec les chemins de fer, ils ont accepté le principe, hein, ils vont maintenant, dans les mois qui viennent, même que c'est, je trouve personnellement, encore très modeste et limité, placer des grandes bornes avec le S et le B. Ils ont, selon moi, pas encore toujours compris que le B doit être petit et que le S doit être grand, mais chez la SNCB, ils trouvent le B important et le S aussi, mais maintenant, toi, B, S, c'est pas si clair, hein, il faut faire beaucoup plus S, mais c'est qu'un début. Il faut encore beaucoup plus d'investissement dans l'espace public des gares même, hein, ou des arrêts même de chemin de fer, mais aussi dans les alentours de ça, où il y a un débat financier. Je ne dois pas vous cacher non plus. On veut que la SNCB paye ça sur leur territoire. Territoire bruxelloise, on peut encore parler, si on ne doit pas investir non plus. Mais c'est un grand débat. Bon, vous pouvez dire que ce n'est pas notre affaire, mais entre les nouveaux le pouvoir, ça joue quand même. Qui paye quoi, hein? C'est quand même quelque chose qui se pose là-dessus. Mais là, on essaye aussi quand même de bien travailler ensemble, comme on a demandé à SNCB dans les gares, de mettre un panneau avec les traits S. Je donne un exemple. Quand on est à la gare du Midi et on veut à la gare du Nord, il faut être déjà un génie pour comprendre quel trait prendre de la gare du Midi vers la gare du Nord. Hein. Il faut voir ça un peu, hein. C'est très compliqué. Si tu as un smartphone, tu as l'application CityMapper, Google Maps, là tu vas trouver facilement, puisque CityMapper dit c'est ça, même avec le retard de train, inclut tout ça, c'est facile. Mais si tu n'as pas ça, tu comprends pas. Depuis 2 ans, je pense, j'ai demandé à SNCB, ils étaient d'accord avec le principe, de mettre des panneaux pour dire le train vers gare du Nord, le train vers gare du Luxembourg, hein, c'est ce qu'est le prochain train, le numéro de quai, et dans quelle minute le train départ, puisque tout le reste, il ne faut pas ça. Mais, attends, j'ai demandé ça à un SNCB, mais j'ai dû le demander à la STIP aussi, hein, puisque c'est la même chose à la STIP, hein, par exemple, à la gare du Nord. Maintenant, ils ont placé les écrans, la STIP est plus efficace que le SNCB, hein, les écrans sont là entre-temps. À la SNCB, on attend encore, mais c'est nécessaire. C'est justement une des choses que vous avez demandé aussi et que je pense, en effet, qu'on doit faire. Deuxième grand chapitre dans lequel vous avez fait des suggestions ou des demandes, c'est sur partager de l'espace. Là, je suis d'accord avec vous, mais la réalité me dit évidemment aussi qu'au moment politique, il n'y a pas un consensus. Hein. C'est pas toujours évident de faire des choix à Bruxelles. Et pour moi, un des constats du passé est qu'à Bruxelles, on a exactement voulu éviter des choix. C'est-à-dire, on a voulu faire plaisir aux piétons, aux cyclistes, transports en commun, voitures, tout en une fois, avec la conséquence que personne n'est content, c'est bien pour personne, et parfois c'est un peu brôle, hein, si je peux le dire comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes plutôt maintenant, c'est dans l'accord gouvernemental, mais on va aussi rédiger le plan régional de mobilité dans ce sens-là, pour une spécialisation des voiries. Qu'on choisit pour certaines voiries, ça c'est pour les cyclistes, les autres ça c'est pour le transport en commun, peut-être les autres pour les voitures, évidemment bien aménagé, hein, mais cette spécialisation des voiries est quand même un principe et qu'on doit sortir de l'idée qu'on peut faire tout à toutes les voiries puisqu'il n'y a simplement pas assez de l'espace. On doit constater aussi, et je suis content que vous partagiez l'opinion que c'est pas bonne, que dans le passé à Bruxelles c'était d'abord la voiture et à la fin des piétons. Regarde la petite ceinture, regarde plein de voiries avec des mini-trottoirs, hein, des mini-trottoirs, hein, aussi des, et pas seulement des voiries régionaux, mais ça se va déjà un peu mieux, mais aussi beaucoup de voiries communales avec beaucoup de place pour le stationnement. Et on revient tantôt sur le stationnement, une question pénible, je pense. Mais, important de souligner que chaque fois qu'on fait des grands travaux maintenant à Bruxelles, on suit le principe que vous avez énoncé dans votre résolution. Et je vous invite, et ça on peut le faire, hein, puisque le 1er septembre, il y a la grande ouverture de la nouvelle ligne de tram 9, et comme ça, on peut constater que tout le développement de cette ligne est justement fait avec des choix, mais des pistes cyclables séparées, des trottoirs séparés, beaucoup de verdure, beaucoup de rails de tram engazonnés, encore des places pour les voitures. Et là, on va voir qu'il y a un espace qui est complètement refait. Même chose, par exemple, pour le tram 94 à Wolu. Il y a... voilà, ça j'ai répondu, je pense. Là, évidemment, un principe que vous avez... souligner, qui est très important et quand même crucial, c'est le stationnement. Mais qui est en même temps dans cette région très sensible. Hein, vous savez qu'il y a même quelqu'un qui est allé au tribunal contre moi puisqu'il trouve que je ne prévois pas assez de stationnement dans cette région. Mais il faut savoir qu'à Bruxelles, où il habite 1,2 million d'habitants, on a, si tu comptes tout, probablement 900 000 places de stationnement. À Paris, c'est 800 000 pour le double de gens. On a le même nom, même plus. On a à Bruxelles plus de stationnement que Paris. À ma connaissance, je suis pas, enfin, je suis quand même un peu spécialiste de Paris aussi. C'est une grande ville, beaucoup plus grande que Bruxelles. Ils ont beaucoup moins de stationnement que Bruxelles, à Paris. Et tous les experts de mobilité sont d'accord que le stationnement est justement une solution, mais c'est très sensible. Et aussi dans la commission, on m'interroge parfois aussi. Quand on a voulu faire des pistes cyclables, quelle affaire chaque fois avec les élus locaux, hein, qu'on veut supprimer une place de stationnement ou quelques places de stationnement. Et là, je crois, dans votre résolution, vous avez bien compris. Il faut faire des choix. Et si parfois on veut plus de place pour les piétons et les cyclistes, ça veut dire moins de place pour les voitures. Et ça, c'est quand même quelque chose... que je trouve que c'est très important et que j'espère que tout le monde va bien lire et encadrer et mettre sur un cadre. Et je voudrais vous remercier pour cette recommandation. Je suis aussi absolument d'accord avec vous quand vous dites réduire la largeur de l'espace dédié à l'automobile pour ralentir la vitesse de circulation. On a un très bon exemple maintenant, l'avenue Roosevelt. On est en train de réménager l'avenue Roosevelt. Il y avait beaucoup de polémiques autour de ça. Hein. Mais heureusement, dans la vie politique, il faut oser, avoir du courage. Parfois, on utilise des mots moins propres. Une fois qu'on s'est fait, on voit que les gens aiment ça. Hein. Et maintenant, à Roosevelt, ça reste deux fois deux bandes. Avec une différence, Monsieur le Président, on peut plus rouler 120 km par heure, c'est que 50 km, puisqu'on a réduit l'espace et la vie pour les voitures. Mais on garde deux fois deux bandes, mais à des espaces réduits. Et automatiquement, les voitures ne peuvent plus rouler à 120 km par heure sur un endroit où 50 km est autorisé. Par conséquent, la manière qu'on aménage dans le passé, ici à Bruxelles, les bandes beaucoup trop larges pour la vitesse autorisée, mène à une insécurité routière. Et vous avez bien remarqué ça. Et on essaye chaque fois qu'on réménage de prendre ça en considération. Alors, surtout ce chapitre, oui, c'est une bonne nouvelle et j'espère que tout le monde va bien le lire. Là, ça c'est la communication, partage de l'espace. J'ai entre-temps maintenant la carte mobilité. Là, vous avez évidemment raison. On a, avec la région bruxelloise, on était en avant. Déjà dans la première législature dans laquelle j'étais responsable, on a lancé la carte Mobib, qui est maintenant utilisée par tous les transporteurs, les opérateurs du transport en commun. Même pas toujours évidente, hein, même avec de l'aide, encore pas toujours évidente. Et l'idée de cette carte Mobib était d'être la carte de base. À Bruxelles, tu peux utiliser pour le vélo, on peut utiliser pour le parking, déjà pour d'autres applications. Mais on arrive évidemment maintenant à une situation où la carte est plus ou moins acceptée, que d'une certaine manière, elle est déjà dépassée, puisque la technologie nouvelle est là avec les smartphones. Et tout qu'on attend dans l'avenir, c'est qu'on va continuer d'avoir la carte, bien entendu, puisque pas tout le monde a une smartphone, mais on va quand même développer aussi beaucoup plus digitalement l'offre, les deux simultanément, mais il faut adapter le système. On peut pas non plus être en arrière quand on regarde ce qu'il passe dans le développement dans d'autres villes ou ce que les producteurs proposent. Et la STIP est chargée maintenant de développer ça en bonne collaboration avec les autres opérateurs du transport en commun, mais aussi les interparkings, car sharing et tout ça. L'idée est à terme d'aller à une application. D'ailleurs, le privé est en train de le faire. Hein. Il faut faire ça pour nous, qui est une bonne affaire aussi. Mais évidemment que aussi une carte classique qui peut reprendre tout, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler dans l'ordre. On est avant-garde là-bas. On dépend des autres régions. Et là, on constate quand même parfois une frisolité d'entrer dedans. On peut que convaincre ce qu'on est en train d'essayer de la faire. Toute la question de tarification, l'intégration du tarif, vous avez mis ça sur la table aussi. On est d'accord avec vous là-dessus. Pour le moment, les pourparlers entre les quatre ministres sont pleinement en cours. On a créé un groupe de travail au niveau fédéral avec tous les opérateurs, tous les cabinets. Et j'espère qu'autour de l'été, on peut prendre des mesures. Je ne peux pas vous garantir si on généralise le MTB, à lequel je suis d'accord avec vous, hein, bien entendu, je trouve aussi qu'il faut le généraliser, que ça n'a pas un impact sur le prix, puisque, évidemment, vous demandez de ne pas avoir un impact sur le prix, mais, évidemment, quand le MTB est généralisé, ça veut dire que l'offre est généralisée aussi, et ça a un coût. On doit être réaliste quand même, ce qui ne veut pas dire que le MTB actuel doit augmenter, c'est encore autre chose, mais que l'abonnement STIP simple, ça c'est quand même quelque chose que j'ai des réserves dedans. Mais sache qu'on y travaille. Moi je voudrais bien aussi, j'ai l'impression, mes collègues aussi, mais là, évidemment, les objections pratiques ne sont pas toujours évidentes. Je donne un exemple que vous avez demandé aussi, peut-être moins concret, mais c'est quand même ça. Aujourd'hui, quand vous arrivez à la gare de midi, soit comme un Belge de la campagne, ou même d'une autre ville, peu importe, ou soit comme une touriste, bon, vous avez quatre guichets, hein. Vous avez le guichet STIP, vous avez le guichet TEC, vous avez le guichet de l'Aisne, vous avez le guichet SNCB. Il faut déjà le savoir lequel tu dois prendre et qui à quoi elle offre. Et là, je pense aussi en termes, on devrait aller à un guichet unique. Un guichet transport en commun. Et vous devriez simplement dire, je veux aller là-bas. Et c'est là, au type qui est là... Enfin, type, c'est pas un bon mot français, aux personnes qui est là, de vous informer. On est loin encore. Hein. Je vais encore recevoir un SMS, quelqu'un que je connais. Hein, il a voulu prendre de l'Aisne à Bruxelles. Il est allé à la gare du Nord, il est allé à de l'Aisne. Il n'était pas du tout aidé. Il n'avait rien compris. Je le connais un peu. Il m'a envoyé, c'est quoi ça à Bruxelles il a raison de se plaindre auprès de moi. Mais la réponse était simple, achète un abonnement MTB. Hein. Et c'est quelques euros supplémentaires par mois, 6,5 euros si je ne me trompe pas. Hein, la différence par mois, c'est 6,5 euros pour avoir accès à toutes les lignes de l'Aisne, TEC et SNCB à Bruxelles. Mais même le collaborateur de l'Aisne n'était pas au courant. On n'a pas voulu le dire, j'en sais rien. Mais de toute façon, il n'a pas expliqué. Là, il y a en effet, hein, comme vous avez remarqué, encore beaucoup de travail à faire. On essaie de convaincre. On a en parlé entre les ministres, mais on ne peut pas décider seul. Si on pourrait décider seul à Bruxelles, c'était déjà réalisé. Je suis d'accord sur les tarifs préférentiels et qu'on doit essayer de refaire. Le gouvernement bruxellois va demander à la STIP de simplifier la tarification. C'est plus à nous de décider ça au moment que le prochain gouvernement est formé. Il doit se prononcer sur la tarification STIP, simplification. Mais on va préparer tout le dossier comme ça au moment de la négociation gouvernementale. Ça peut être avec connaissance de cause tranché là-dessus. Politique de mobilité. Vous avez bien compris les différentes choses qui sont là. Je viens de vous dire, hein, vous demander organe de coordination, je voudrais bien, mais surtout dans la zone métropolitaine, hein, puisqu'on ne doit pas le limiter à Bruxelles. J'ai bien compris votre demande. Nous, à Bruxelles, on est pour. Je peux que constater que la Flandre s'oppose, hein, contre toute l'idée de communauté métropolitaine, qui est en concertation entre les communes, entre les régions. C'était prévu dans la sixième réforme de l'État. Malheureusement, c'est pas concrétisé, puisqu'il y a un blocage dans une région. Et vous connaissez aussi la réalité urbaine, que c'est la zone métropolitaine, se retrouve principalement sur le territoire flamand, un petit peu sur le territoire wallon aussi. Mon opinion personnelle est que l'ancienne province de Brabant est la vraie région bruxelloise, hein, et que la scission de cette province et l'abolition de cette province est la plus grande erreur que la Belgique après-guerre commis. Hein, c'est mon opinion personnelle, puisque c'est là, en termes de réaménagement du territoire, en termes de mobilité, en termes de développement économique, il faut régler les choses. Ça se fait partout au monde. Allez, pas partout, puisque le même débat arrive dans les autres villes et aller autour. Mais bon, hein, je pense pas que dans les années qui viennent, on peut changer ça. Peut-être un jour, si la lumière arrive. Rien, évidemment, exclu. Mais je comprends votre demande. Ça demande quand même ça. Interne à Bruxelles, je crois qu'il y a un débat politique à faire. Mon opinion personnelle est que la mobilité doit être une compétence exclusive de la région. Et comme ça, on peut avancer beaucoup plus, puisque maintenant, ça va quand même parfois lent. Mais c'est une opinion personnelle. Là, il y a différentes opinions internes aux partis politiques. Pas tout le monde a la même chose, ni non plus dans chaque commune. Parfois disent oui, parfois disent non. Enfin, ça, c'est débat politique que je dois vous donner comme réponse. Moi, je suis très content que vous demandiez le 30 km par heure par défaut sur toute la région. Vous savez sans doute que ma collègue Bianca de Baatz, moi-même, mais aussi au Parlement, certaines, ont demandé ça. On est en train de travailler là-dessus. On nous a ralenti un peu, mais je dois constater qu'entre-temps, il y a des communes qui voient la lumière. Hein. Votre commune, Monsieur le Président, hein, Saint-Gilles, qui a décidé de généraliser le 30 km sur son territoire. Il y a Scarbé qui a décidé, la ville de Bruxelles va dans ce sens-là. Il y a encore de l'espoir, si je peux me permettre de dire comme ça. On travaille, ma collègue de Baatz et moi-même, sur une carte dans laquelle on estime il faut les zones 30, un réseau 50 km par heure, puisque toujours avoir un réseau 50 km par heure sur les grands axes de pénétration, même parfois 70, pas beaucoup, mais quand même. Et comme ça, ça va devenir beaucoup plus lisible pour les Bruxellois. Aujourd'hui, c'est un spaghetti. Hein. On a fait une carte, je ne sais pas si vous avez vu la carte, mais on a préparé une carte déjà aujourd'hui, zone 30. Problème est, personne ne comprend ça. Tu ne vois pas la différence entre l'aménagement du territoire. La police ne contrôle pas assez et par conséquent, plus personne respecte. Hein, puisque ça, c'est aussi une particularité bruxelloise. Si la personne ne contrôle pas, il n'y a pas de respect des règles. Mais je suis très content avec ça et on y travaille quand même dans ce sens-là. Pour le budget de sécurité dans les transports en commun, on a augmenté. Vous êtes sans doute au courant qu'entre-temps, les 125, si je ne me trompe pas, les 125 agents de sécurité supplémentaires sont en fonction, ou presque complètement en fonction. Évidemment, on peut encore faire plus. On va voir, mais quand même, on a fait un grand pas en avant là-bas. Malheureusement, je dois constater que la police fédérale a diminué la présence des policiers fédéraux chemin de fer sur notre réseau de transport en commun. C'est un grand problème, je trouve, personnellement. Mais quand même, on doit le souligner. Avec la STIP, on travaille aussi sur un important réseau de caméras, plus de 6000 caméras déjà dans les véhicules, 3200 dans les stations, et on va augmenter dans les tunnels des caméras supplémentaires, comme ça on travaille double, personnel et caméras. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La police, enfin, on est d'accord sur les remarques que vous faites. Désengagement de la ville, le dernier point que vous avez mentionné, là aussi, on est d'accord. Le principe du péage cordon. je n'aime pas le mot, puisque ça fait penser à un cordon, quelque chose que tu vas fermer, même que je ne suis pas un francophone, mais je pense qu'un cordon, ça veut quand même dire ça, on va fermer quelque chose. Je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de Bruxelles de le faire, mais je suis, et j'ai quand même le sentiment dans le gouvernement bruxellois aussi, puisque je ne parle pas seulement dans mon nom, que tous les partis, plus ou moins, sont quand même d'accord qu'il faut, instaurer d'une certaine manière un système de payer pour utiliser la voiture, surtout liée à une entrée à Bruxelles. Sur quelle forme ça doit prendre, il y a encore débat politique nécessaire. Il y a plusieurs options qui sont possibles. Je crois qu'il y a un consensus qu'à terme, on doit faire un kilométrage kilométrique, road pricing, ça pour les voitures privées, on est d'accord. Je peux vous dire que j'ai visité Singapour. Je ne sais pas si vous savez, mais Singapour est la ville-région la plus développée sur cette question-là. Il veut aussi instaurer un péage, enfin, péage ou un kilométrage routier par kilomètre. Mais personne au monde a ça aujourd'hui. Même Singapour n'a pas ça. Ils sont en train de développer maintenant. Ils vont l'avoir en 2021 si tout va bien. Ça veut dire que le plus vite possible, ici, on pourrait, dans la zone métropolitaine autour de Bruxelles, puisque ça ne sert à rien de faire seulement à Bruxelles. Il faut le faire dans la zone métropolitaine autour de Bruxelles en 2022, 2023. Mais personnellement, et j'ai le sentiment que tous les partis au gouvernement bruxellois actuel sont quand même d'opinion qu'on ne peut pas attendre 2023 pour faire quelque chose. Il y a plusieurs pistes. Moi, je suis plutôt lié à combiner ça avec le carpooling. Quand tu viens en carpooling, c'est gratuit. Quand tu ne viens pas en carpooling, il faut payer. Il y a des autres modalités possibles. Mais on doit bien regarder sur quoi, puisque ce que moi, je ne veux pas, et je pense que tout le monde ne veut pas, c'est que les banques, que les administrations, certaines grandes entreprises quittent Bruxelles et vont s'installer à Anvers ou Namur. Je pense que les Flamands et les Wallons adorent ça, de piquer des administrations, des entreprises de nous. On doit être très attentif. Il y a tout un volet économique important là-dessus. Mais qu'on doit faire quelque chose comme vous le demandez, j'ai aussi le sentiment que le Bruxellois le veut. On doit le faire d'une façon intelligente. Ça nécessite encore un débat politique, mais on sent que le débat est en train de se concrétiser et matérialiser. Tout ce que vous dites ou demandez sur le parking public, on a commencé avec Seria Kovi, 1300 places. Ça va être terminé début de l'année prochaine. Hein. J'espère qu'on peut l'ouvrir normalement début de l'année prochaine. Chaque année, on veut construire une. L'autre est normalement à Stal. La procédure sera en cours. L'autre, c'est A12 et la transformation du parking C en parking de transit. On va voir maintenant avec la fermeture dans une semaine de Léopold 2 où on va créer un parking de transit sur parking C, si ça va être utilisé, oui ou non. On va quand même organiser une navette entre parking C et le métro, comme ça les gens ne doivent pas aller à pied, mais il y a une navette motorisée là-dessus. Voilà, c'est une politique, on suit. Vous pouvez dire ça prend du temps, oui ça prend du temps, parce qu'il y a plein de procédures à suivre. Et je peux vous donner un exemple, quand on a fait à Stal, il y a une commune bruxelloise qui était... au début contre, finalement, il y avait un changement, ils n'étaient plus contre, mais aussi en Flandre, ils étaient contre. C'est toujours quelque chose, hein, quand on veut faire ça, puisque l'aspect NIMBY est toujours rapidement présent aussi. Oui, sur les autres principes là-dessus, on est assez d'accord. Je pense, vous avez sans doute entendu aussi que vous demandez aussi que les autres régions construisent équipes de parking de transit plus en amont, que la Flandre a annoncé qu'ils vont le faire. Hein, je crois que c'est une bonne décision du ministre Ben Weitz là-dessus. Et là, on en parle. Pour résumer, Monsieur le Président, vous avez compris, je pense que le gouvernement, moi-même aussi, on est très content avec les conclusions du panel citoyen. Ça s'inscrit parfaitement dans la ligne de transformation, de changement du paradigme dans lequel ce gouvernement s'est engagé. Et pour moi, c'est un bon encouragement de continuer, approfondir, ce qui me concerne encore, accélérer certaines lignes de politique qu'on fait. Et votre conclusion sont données aussi au bureau des experts de mobilité qui sont en train de préparer l'avant-draft plan régional de mobilité, puisque je crois que ça, c'est indépendant, ce que moi je dis, c'est important qu'on reprend dans le document officiel là-dessus. Je vous remercie alors pour votre travail, le travail du Parlement, et je pense que c'est un outil très important à laquelle on va certainement travailler. Je vous remercie.
Réagir, peut-être on pourrait, par courtoisie, donner d'abord la parole aux panélistes qui souhaiteraient s'exprimer sur l'exposé-réponse de Monsieur le ministre. Rekening houden dat wij niet natuurlijk het debat moeten hervatten of herbeginnen, maar op basis van deze informatie die verschaft werd door de minister, is het mogelijk dat een of een andere lid van de panelistengroep zouden wensen dus één vraag te stellen. Est-ce que, alors je vous propose que dans les interventions, nous donnions dat de spreektijd beperkt zou zijn tot 5 minuten per spreker. C'est d'accord, puisque ici nous sommes en train d'organiser les travaux de manière, je dirais, plutôt spontanée, puisque nous sommes dans une formule qui n'a jamais été véritablement expérimentée. Voilà. Alors, dans les panélistes, est-ce que... Bon, s'il y a quelque chose que... auquel vous pensez, rien n'empêche de poser une question plus tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les panélistes qui souhaiterait un éclaircissement, qui souhaiterait apporter un bref commentaire à ce qui est dit? Oui? Oui, c'est M. Verstraat.
Merci beaucoup pour vos explications. Il y a quand même quelque chose qui me manque dans vos explications, ou en tout cas pas clairement. Donc c'est le côté justement proposition intégrée. Donc chaque, on a entendu des réponses à chaque petit bout, mais pas en fait une vision globale. Et donc même si ça transpire un peu, en fait c'est pas clair quelle est la vision globale. Le deuxième point, c'est que ce qui sortait aussi fort de cette cette proposition, c'est le côté multimodal. Donc, c'est-à-dire que les gens, une personne, véhicule en de différents modes de transport. Et là aussi, je n'ai pas senti vraiment comment les gens les passaient de mode en mode et comment justement on va partager. Et ceci est important parce que justement, s'il y a un mouvement de transport, donc si les gens commencent à utiliser plus le transport en commun, donc faire moins d'utilisation de véhicules, et donc forcément, il y aura aussi des changements de comportement et des changements de quantité justement de modes à transporter, de personnes à transporter. Donc j'entends évidemment aussi que c'est un immense travail de consensus à avoir. Évidemment, parfois, il vaut mieux prendre un petit pas que de ne pas prendre de pas du tout dans les consensus. Et quelque part, en fait, si déjà entre partis politiques, entre tous ces, justement, ces partis, on n'arrive pas à s'entendre, comment voulez-vous avoir justement tous ces citoyens individuels qui n'arrivent pas à trouver des consensus entre eux? Donc quelque part, l'idée de consensus fait partie justement de la démocratie et c'est aussi un travail à faire obligatoirement de trouver ce consensus. Sinon, on n'avance pas, on n'obtient rien, quoi. Alors, je crois que c'était en gros les trois points que je trouvais importants à souligner. Merci beaucoup.
Merci. Quelqu'un d'autre peut-être pour regrouper? Oui.
Merci pour les explications également et je remercie le président aussi d'avoir organisé ce suivi. Moi, je voudrais rappeler tout de même, quand vous parlez de génération 3.0 avec les GSM, les smartphones, il ne faut pas oublier, je vais l'appeler la génération 0.0. Ceux qui ont du papier et qui ont besoin d'un ticket, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas foncer et suivre, je dirais, la grande tendance. Il y a des gens qui ne savent pas l'utiliser. Le cas que vous avez présenté pour les étrangers au niveau des cartes distribuées dans les gares, c'est exact. J'ai vécu cela plusieurs fois avec des personnes étrangères. Moi, je vous poserai la question aussi au niveau des parkings de dissuasion. Comme on le demande, nous avons des espaces en or qui sont les entrées d'autoroute où on peut creuser en dessous. Les entrées, comme la rue de la Loi, par exemple, on peut creuser en dessous du Charles Quint. On peut créer des parkings de dissuasion sur notre territoire. Nous avons des espaces disponibles. Également, vous allez pour le parking C ouvrir des bus ou une ligne. pourquoi pas faire que les bus de l'Aisne, par exemple, ou du Tech s'arrêtent à notre près des stations de métro périphériques pour désengorger, par exemple, les boulevards vers le centre. Voilà ces deux idées, et je crois que le panel vous a bien expliqué toutes nos grandes idées de consensus que nous avons aussi de notre côté.
Monsieur Van de Put, merci. Oui.
Meneer De Klamp. Ook bedankt voor de uiteenzetting. Ik denk om het autoverkeer binnen Brussel terug te dringen, denk ik dat er veel begint met het performant openbaar vervoer. Binnen Brussel dan, als we het hebben over waar dat we controle over hebben. Maar welke criteria worden opgesteld voor het openbaar vervoer binnen Brussel, dus aan de MIVB? Wat zijn de studies die dat bestudeerd hebben en wat gaat men eraan doen om het te verbeteren?
Quelqu'un d'autre encore parmi les panélistes, onder de panélisten? Geen andere vragen? Ok. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne répondriez pas
brièvement? Oui. Oui, vous avez raison. La réponse est intégrée. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis content qu'il y ait un plan interfédéral sur la mobilité qui est en rédaction. Il n'existe pas maintenant. Mais pour faire une approche intégrée, on a besoin de trois autres entités. Le fédéral, la Flandre et la Wallonie. Parfois ça va et parfois ça ne va pas. Par exemple, si on veut instaurer une taxation à kilomètre, la Wallonie dit oui, la Flandre dit oui, la Wallonie dit non, Bruxelles dit oui. Quand il s'agit d'ouvrir de high occupancy lanes dans le cadre du carpooling, c'est-à-dire tu prends une bande de l'autoroute pour donner ça au partage de voitures, la Flandre dit non, la Wallonie dit oui. voilà. C'est difficile d'avoir toute une approche intégrée à ce moment-là, mais on essaie. Et on fait des avancées, trop lentes, je trouve aussi, mais on va dans ce sens. Que le fait que, par exemple, maintenant, sur la tarification ou l'intégration du tarification des transports en commun, on essaye de faire des avancées maintenant. Mais on doit parfois mettre les fouets sur les opérateurs du transport en commun aussi, hein, puisque c'est pas toujours au niveau politique que ça coince. Hein. Parfois, il y a des autres intérêts qui jouent aussi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Aussi, multimodal. Il y a beaucoup de travail à faire. Les Belges sont un peu... Ici, je parle pas seulement des Bruxellois, aussi des Bruxellois ou les Belges. Ils sont un peu... agrandi avec l'idée, suite avec toute la promotion de voitures, il faut se déplacer d'un point A, B en un mode. Hein, préférence la voiture. Évidemment, quand on raisonne comme ça, la voiture gagne toujours sur les plus longues distances. Sur les courtes distances que le Bruxellois ne comprend pas toujours, c'est le vélo qui est le plus vite. C'est le vélo qui est le plus vite. Hein. Et là aussi, il y a plein de gens qui ne savent pas mentalement, puisque beaucoup des experts de mobilité sont d'accord maintenant qu'en réalité... Le problème de mobilité, un problème de comportement et un problème d'habitude. On regarde ça aujourd'hui. J'ose pas dire ça trop haut, puisqu'il ne doit pas écouter sans Flandre ou Wallonie. Mais avec la rénovation du complexe des tunnels Reyers, la première journée, on a une difficulté. La première journée, mais maintenant, plus ou moins, ça va. Hein. Les gens s'adaptent, puisqu'ils sont forcés de s'adapter. Ils ont remis leur comportement en question. Même chose ici dans le Pentagone, avec l'arrivée de Pitonné. Il y a beaucoup moins de voitures de transit, beaucoup moins, puisque les gens sont adaptés. Et ça demande encore de pédagogie, d'expliquer aussi à quelqu'un, par exemple, il n'y a rien de grave de prendre le matin ton vélo pour aller à la gare centrale et ensuite continuer avec un train, par exemple. Ou prendre ton vélo pour aller à un arrêt de métro, ou à pied. Et à Bruxelles, notre transport en commun... C'est une autre question qui est posée. Elle est parfois très performante et parfois beaucoup moins performante. Ça dépend géographiquement. Des critères qu'on a dit à la STIP, c'est que chaque Bruxellois doit avoir à 400 mètres un arrêt de transport en commun. Ils ont. Et sur certains endroits, surtout le centre, quand on regarde les cartes comment c'est bien desservi avec transport en commun, le centre de Bruxelles est très bien. Le plus loin qu'on va, moins. parfois c'est explicable, puisqu'il y a une moindre densité à Nidrovrembeek ou à Aaren, ou évidemment dans le bois de la Combre, hein, il y a pas beaucoup de gens qui habitent là-bas, heureusement. C'est l'offre. Parfois, il y a des choix du passé, comment Uccle a refusé le métro. C'est vrai qu'en Uccle, le transport en commun est mal. On a des bus et tout ça, mais le tram est dans le trafic, puisqu'il ne veut pas de site propre. Hein, tout ça est compliqué. Oui, ça dépend. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la décision de ce gouvernement d'investir sur une période de 10 ans 5,2 milliards d'euros dans le transport en commun. Quand moi je dis ça à mes collègues étrangères, ils tombent presque tous de leur siège. Hein. Il y a peu de villes qui font ça hein, aujourd'hui encore. On investit beaucoup dans des nouveaux bus, nouveaux rames de métro, nouveaux rames de tram, nouvelle ligne de tram, deux, hein, septembre-octobre, on va entrer en vigueur deux, la modernisation de toute la signalétique du métro pour augmenter la fréquence, la création de nouvelles lignes de métro, le nouveau plan bus avec en mois six nouvelles lignes de bus, interquartiers pour éviter qu'il faut aller au centre et changer, mais qui vont relier directement le quartier, Nidrovrembeek, Uccle qui va être beaucoup mieux desservi. Enfin, c'est toutes ces décisions qu'on a prises et qui sont en exécution maintenant. Ça, c'est la réponse. Mais là, évidemment, la vraie réponse, et c'est déjà souvent à juste titre par le Parlement mis sur la table, c'est l'offre de SNCB à Bruxelles. Et là, on ressent toujours encore à SNCB une réticence de comprendre que le réseau ferroviaire à Bruxelles est aussi pour les Bruxellois et pas seulement pour amener les nafteurs à Bruxelles. On ressent toujours une réticence là et d'entrer dans cette logique dedans. Moi, je suis pas d'accord avec monsieur qui a dit qu'il faut demander à de l'AN et de TEC avec la ligne de bus et arrêter un arrêt de métro. Puisque, pour deux raisons. D'abord, maintenant, c'est le contribuable flamand et wallon qui paye les bus de l'AN et de TEC. Au moment qu'on va demander à de l'aide de TEC, soit d'arrêter à la frontière bruxelloise, ou arrêter à un arrêt de métro, c'est nous, les Bruxellois, qui vont payer pour les Flamands et pour les Wallons. Je pense pas que c'est intelligent. En plus, on va augmenter une rupture de charge. Oui, même métro. Les gens n'aiment pas trop les ruptures de charge. Un, rupture de charge. Une, ils peuvent encore accepter. Mais deux, c'est déjà beaucoup moins. Et je pense pas qu'en termes d'attractibilité, c'est si intéressant. Ça ne veut pas dire pas qu'on doit convaincre les gens quand c'est dans l'intérêt de le changer. Vous avez raison sur le parking du Zuazio. Vous avez parlé de Charles Quay. Problème aujourd'hui avec le Charles Quay est, on a Berkham-Saint-Agathe la gare, on a un petit parking de transit là-bas, relié avec la gare, mais pas beaucoup de trains. Moi, je voudrais bien faire sur le karting un grand parking de Zuazio. C'est déjà en Flandre, hein. Mais il faut prolonger le métro de Simonis jusqu'à Grootberghaven. On a une étude en cours. Non, on a une étude en cours. Et c'est, on va voir dans les semaines qui viennent le résultat. J'espère qu'il est positif. Comme ça, on peut démarrer. Puisque si on fait ça, prolongement du métro de Simonis jusqu'à Grootberghaven, construction un grand parking de transit, ça nous permet de réduire le Charles Quay à deux fois une bande. Puisqu'on peut dire en after, c'est fini, hein. Vous prenez, le métro. C'est plus vite, plus rapide, si vous voulez en voiture, ok. Après, tu as le tunnel Liverpool 2 complètement rénové à ce moment-là ça va être là. Hein. Mais, en surface, c'est d'abord les Bruxellois. Moi, c'est pour le principe. Hein. En surface, d'abord les Bruxellois. Hein. Voilà, je pense que j'ai répondu aux suggestions et remarques, puis j'avais des suggestions aussi. Je suis d'accord avec... Ik ben akkoord, sorry dat ik niet Nederlands heb geantwoord dat u een vraag in Nederlands gesteld. Dat is al uit de gewoonte dat ik me hier aanpas. Maar ik neem aan dat u hebt, ik heb gezien dat u geen hoortje had begrepen wat ik zeg. Dus het openbaar vervoer is niet slecht. Het kan nog beter op bepaalde gebieden. Soms is het supergoed. En soms kan het nog beter. Het hangt echt af van verbindingen al of niet hebben.
C'est parce que c'est vrai que je me disais, tiens, tu réponds. Alors, maintenant, on va passer aux membres de la commission et on va, par courtoisie, céder d'abord la parole à Monsieur Lowenstein, rapporteur.
Oui, je ne vais pas être très long. D'abord,
Enfin, remercier à nouveau les services, Participatis, mais surtout les citoyens qui ont monopolisé de leur temps pour travailler sur le texte qu'ils ont proposé au gouvernement. Ici, on a bouclé la boucle au niveau, je pense, de ce panel citoyen avec les réponses du gouvernement. C'est des réponses qui peuvent être satisfaisantes ou pas. Il y a certains projets qui avancent, d'autres qui bloquent toujours. Et c'est aussi peut-être une manière de faire la transition avec le travail parlementaire, puisque au niveau, sans rentrer dans le détail sur le fond des dossiers, toutes les questions qui sont abordées dans le cadre du panel citoyen, quasi toutes, ont déjà été abordées dans le cadre de questions parlementaires. Et il est certain qu'à l'avenir, les différents députés qui siègent au sein de la commission infrastructure continueront certainement à interroger sur le sujet, sur la question de l'intégration, sur la question de l'intermodalité, etc. Enfin, il y a toute une série de propositions. Vous avez évoqué quelques dossiers qui étaient en cours avec des discussions avec les autres niveaux de pouvoir. Je pense que ce sera notre rôle de continuer à intervenir et faire en sorte que ça avance. Maintenant, je pense que surtout au niveau de cette procédure de panel citoyen, qui a été très positive, mais une évaluation va devoir être faite pour voir les avantages et les inconvénients de certaines méthodes utilisées, l'améliorer pour en lancer un second prochainement. Alors je sais que la période est un peu chaude puisqu'il y a des campagnes électorales, des échéances qui arrivent, mais il ne faut pas oublier cette procédure qui a été inscrite dans notre règlement et proposer, je pense, d'autres sujets et continuer à maintenir ce contact entre le Parlement et le citoyen en dehors juste des élections.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ook ik wil graag de burgers nog eens bedanken voor al de tijd die ze hebben besteed aan dit nodige werk. Ik wil ook de minister bedanken voor zijn uitvoerige antwoord. Het is natuurlijk iets. Eigenlijk kwam dit burgerpanel precies op tijd, aangezien we net bezig zijn met de voorbereidingen van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan. Vandaar dat dit natuurlijk nog niet de laatste vergadering is waarbij dat er rekening mee zal gehouden worden of gepraat zal worden over de resultaten van de zaken die in het burgerpanel zijn besproken. Bij de volgende begrotingsbesprekingen en zeker bij de besprekingen van Iris 3 of hoe het nieuwe plan dan ook zal heten, zullen deze zaken zeker opnieuw naar boven komen. En zullen wij ook kijken hoe de rekening is gehouden met die input van de bewoners. Ik denk dat dat zeer belangrijk is. Een aantal pijnpunten aangehaald natuurlijk, de samenwerking tussen Brussel en de andere gewesten en het federaal vlak, de parkingdiscussie, de discussie over de stadstol. Ik wil toch zeggen, meneer de minister, u bent bang dat de bedrijven gaan vertrekken, maar in Londen waren het onder andere de bedrijven die vragende partij waren om zoiets in te voeren. Maar het laatste woord is er zeker niet over gezegd. Het is iets wat heel veel mensen bezighoudt en het voornaamste wat ik eigenlijk uit dit burgerpanel overhoud, dat is dat het mogelijk is om met mensen van heel verschillende plaatsen in Brussel, met heel verschillende achtergronden, met misschien ook heel verschillende meningen, van toch te komen tot iets wat gedragen is en waar mensen consensus kunnen overvinden. We geloven dat in de politiek niet altijd dat kan, maar hier is gebleken dat het wel kan. Als dit op deze schaal kan, dan kan dat ook over heel Brussel. Dus alleen al daarom is het een interessant experiment geweest. Ik hoop alleen dat het niet blijft bij dit eenmalige experiment, maar dat we het inderdaad ook gaan verder zetten met andere thema's. We moeten het inderdaad wel eens hebben over de procedure, een beetje een evaluatie maken, maar dat kunnen we nu na deze eigenlijk conclusie van dit project kunnen we nu gaan doen. Ik denk een van de zaken die we zeker niet mogen vergeten, dat is, het moet sneller volgens mij. Dus de tijd tussen het moment dat de mensen van het burgerpanel hebben vergaderd, met hun conclusies zijn gekomen, en het moment dat we nu uiteindelijk in een vergadering zitten waarbij dat we ook het standpunt van de regering daarover horen, ik denk dat we daar meer vaart moeten achterzetten. parlement werkt traag, ik weet het allemaal wel, maar ik denk dat we daar toch iets meer moeten pushen, zodanig dat mensen heel snel, heel sterk de band nog altijd voelen tussen wat zij op tafel hebben gelegd en het resultaat dat ervan is gekomen. Maar bon, het was een eerste probeersel, dus ik denk dat we daar veel kunnen uit leren. En ik denk uiteindelijk dat het toch een succes is geweest. Dank u wel.
Over de tijd tussen het begin van het proces en de conclusie daarvan moeten wij natuurlijk iets in acht nemen, namelijk het feit dat het een eerste ervaring is natuurlijk. Hè? Dus, en dat heeft veel tijd in beslag neerst om over een thema een akkoord te bekomen. En dat is natuurlijk iets dat wel bekend is. Hè? Dus het thema is al een politieke keuze, zou ik zeggen. Dus er zijn thema's die natuurlijk verdedigd zijn door sommigen en andere thema's door anderen. Dat is een eerste ding die tijd in beslag neemt. Ik heb dat vastgesteld. En ten tweede is het evident dat een panel, om een goede panel dus in te richten, is het noodzakelijk, onontbeerlijk zou ik zeggen, dat wij tijd besteden aan de informaties van de leden van een panel. En dus, voilà, c'est donc c'est long ce processus parce qu'il était expérimental, mais il y a quand même toujours, je dirais, il y aura toujours une contrainte pour qu'un panel soit éclairé par une connaissance des enjeux fournis notamment pour une information venant des experts et tout, il faut un certain temps. Et moi j'ai été très étonné de constater que certains panélistes, comme ça dans des contacts informels, ne savaient pas certaines choses de l'ordre du réglementaire, de l'institutionnel, du budget, de la confusion entre les différents niveaux de pouvoir dans notre pays, etc. Et donc c'est là qu'il y a dans le panel aussi un processus pédagogique qui prend un peu de temps. Ou alors, comme je le disais tantôt, hop, on reçoit des réponses qui sont des réponses qui ne sont pas éclairées et qui sont alors des réponses qui peuvent s'assimiler à des préjugés ou à des idées qui ne sont pas, je dirais, confrontés à des informations objectives sur le sujet. Mais bon, voilà, donc ça
meneer de voorzitter, ik heb mij misschien verkeerd uitgedrukt en het was niet de bedoeling van iemand een verwijt of zo te maken. Mij ging het vooral over het neerleggen van de conclusie door het panel en de periode die er daarna is geweest in het parlement.
Dit gedeelte van het proces.
Ik denk ook niet dat er iemand op de rem is gaan staan en zo. Ik denk dat het inderdaad heeft te maken met de eerste keer. Maar ik denk dat we daar dat we toch wel iets compacter kunnen maken.
Bien. Madame Delforge.
Merci Monsieur le Président. Mais je ne vais pas rentrer sur. Enfin, je ne vais pas m'amuser à faire le même exercice que le ministre et j'imagine qu'aucun groupe n'a prévu de commencer à commenter chacune des propositions. Je pense que c'était intéressant de voir, mais au niveau du résultat, que en finalement assez peu de temps, les participants au panel ont réussi à développer quand même une réflexion qui va au-delà de certaines évidences ou de ce qu'on peut entendre parfois à gauche, à droite, qui a vraiment une construction, y compris dans le choix des thèmes. Alors, je ne vais pas non plus expliquer pourquoi, pour certains, on est d'accord avec le ministre, pour d'autres, on trouve que, oui, enfin, sur le fond, on est d'accord, mais en attendant, on ne trouve pas que ça se passe comme ça dans les faits. Ça, je crois que les débats parlementaires sont très fournis pour qui veut trouver un éclairage sur les positions de chacun. Et j'imagine que si les panélistes ont été enthousiasmés par la thématique et par ce qu'ils ont pu apprendre et ce qu'ils ont envie d'apporter, ils peuvent, je suppose que ça vaut pour tous les partis, également aussi aller voir les programmes des partis, voir qui défend quelle idée, interpeller les partis. Je trouve que c'est important, peut-être que c'est aussi ça l'exercice démocratique, c'est après avoir eu l'occasion de réfléchir, de nous présenter leur travail, peut-être aller rediscuter et retitiller chacun des courants politiques pour... Mais voilà, pour continuer à faire vivre certaines thématiques, certaines propositions, les discuter. On sait bien qu'en mobilité, on a rarement fini d'épuiser, on a rarement épuisé le moindre sujet. Alors, je voulais savoir également si, à un moment donné, il y a une réponse écrite aussi qui va être fournie aux panélistes, parce que je pense qu'il y avait quand même aussi cet esprit-là. Il y a la version orale, mais aussi une version écrite, peut-être. Un peu plus, voilà, parce qu'on ne va pas tant dans le détail quand on est à l'oral qu'à l'écrit. Et alors, je suppose que nous avons prévu aussi de demander un retour aux panélistes pour savoir si ce qu'on leur a fourni ou les modalités de réponse sont bien ce qu'eux attendaient ou s'ils s'attendaient à autre chose et s'ils sont satisfaits, ce qu'ils estiment revoir. Voilà, c'est une première et je pense que ça vaut quand même la peine d'évaluer le processus jusqu'au bout, y compris sur ce qui pourrait sembler être le point final ici.
D'abord, les rapports de monsieur. Enfin, le rapport contiendra évidemment. Verslag zal natuurlijk het antwoord van de minister bevatten. Hein, dus les réponses du ministre sont dans le rapport. Je crois que le processus n'est terminé que quand le rapport est là. Et que le rapport est alors d'abord, soumis à votre lecture, à vous. On devra aussi peut-être demander à M. le maire s'il pense que le rapport reflète fidèlement le processus. Et puis, c'est à l'occasion, finalement, du choix d'un nouveau sujet de panel que nous tirerons quelques informations et quelques enseignements d'expérience qui a été menée. Mais là, je pense qu'il faudra le faire à la lumière aussi de ce que nous dira, évidemment, Participis, c'est-à-dire c'est un peu aussi notre expert qui nous dira quels sont les facteurs d'amélioration possibles de ce processus, qu'est-ce qu'on peut éventuellement corriger. Donc, bon, voilà, je pense que tout ce que tu dis, ça va se poser comme question au moment où nous choisirons un deuxième thème. Ceci étant dit, je dois vous avouer que mettre en place ce processus dans un contexte de campagne électorale me semble extrêmement dangereux, parce que nous finirions par détruire la méthode sur fond de polémiques préélectorales. Rien que le choix du thème, comme je le disais tantôt, posera déjà question, parce que bon. Voilà, il y a des thèmes que certains ne voudront pas voir soulevés parce que le bilan peut-être d'une politique pourrait être mis en question. Il y en a d'autres qui voudront mettre en avant un thème qui figure parmi les priorités de leur programme politique. J'imagine volontiers, je le dis aux panélistes, que je commence une discussion au sein du bureau de notre Parlement sur ce thème, entre les élections communales et les élections régionales. Je doute que ce soit très, très, très constructif pour la suite de notre expérience. Mais voilà, donc, je crois que le processus, il se termine quand le rapport est fait, qu'il est lu par les experts, qu'il est lu par les panélistes. C'est un dérapage intéressant, bien. Il y a un inconscient là-dedans qui a dû fonctionner. Alors, c'est là qu'on pourra vraiment dire, voilà, le rapport est clôturé, puisqu'il y aura aussi peut-être des réactions sur le rapport même après sa lecture. Voilà. Madame Durcel et M. Chaït.
Oui, merci, M. le Président. J'avais une idée un petit peu différente du processus, parce que c'est vrai qu'on est en train de le créer ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de considérer éventuellement que le processus ne s'arrête pas après le rapport, mais par contre qu'il s'arrête plutôt au moment de la discussion sur Good Move. Et c'est à ce moment-là, à l'occasion du nouveau plan régional de mobilité, qu'on peut avoir justement une réinvitation, une nouvelle invitation du panel citoyen, de tous les panélistes, à l'occasion de cette discussion, et une présentation du ministre sur ce qui retient de la proposition citoyenne à travers son plan régional de mobilité, troisième version. Je crois que ça a beaucoup plus de sens. Et alors, à ce moment-là, on aura véritablement la possibilité de dire aux citoyens ce qu'ils ont véritablement apporté à la mobilité bruxelloise. Je vous remercie.
Voilà, mais je crois que le processus consultatif est terminé. Mais, à l'occasion, évidemment, du plan régional, on réévoque le rapport, et c'est dans le débat qui accompagne le plan qu'un certain nombre de questions pourront être posées en rapport avec le contenu des recommandations.
Je crois que vous avez raison, Monsieur le Président, mais je pense pour la transparence de la démocratie, ça pourrait pas mal non plus que chaque parti politique dit, recommandation par recommandation, s'il est d'accord ou pas d'accord. Ça serait très intéressant aussi. Moi, je vais faire ça. Mais je pense que c'est très intéressant.
Nous, on a déposé beaucoup de propositions dans ce sens, Monsieur le Ministre.
Et je suis particulièrement curieux
la région bruxelloise.
Vous allez répondre à toutes ces questions.
Il faut l'assumer jusqu'au bout, Monsieur le Ministre.
Je suis particulièrement curieux comment vous allez répondre.
Non, attention, le débat en séance plénière a déjà plus ou moins indiqué... Oui, allez. Je crois que le débat en assemblée avait déjà indiqué un petit peu les réserves des uns, les limites de l'enthousiasme des autres et tout ça. Voilà. Monsieur Chait avait demandé la parole.
Oui, vous m'avez oublié, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mais donc, tout d'abord, je voudrais également remercier les panélistes pour le travail qui a été effectué, remercier vos services et principalement vos deux secrétaires qui ont fait un excellent travail. Je me joins à la demande de Céline Delforche. Moi, je pense qu'effectivement, avoir une réponse écrite du ministre pourra aussi nous permettre, en commission infra, de rebondir sur ce qui sortira du Good Move et ce qui sera mis en œuvre et quand ça sera mis en œuvre. Je voudrais, ceci étant dit, rebondir sur un élément évoqué par le ministre, à savoir le fait qu'il est pour que toute la mobilité soit régionalisée. J'ai envie de vous dire, Monsieur le Ministre, moi aussi, mais j'ai envie que ça fonctionne. Et aujourd'hui, il y a un outil que tout le monde connaît, qui est l'agence de stationnement, qui a été mis en œuvre depuis un certain nombre d'années, qui est censé gérer le stationnement à Bruxelles et qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. Pour une fois, les communes n'y sont pour rien. Pour une fois. Ils ne payent pas. Alors ça, je voudrais bien voir qui ne paye pas, parce que vous savez, moi, je donne un titre d'exemple, et c'est l'exemple que je connais le mieux, puisque c'est ma commune. Moi, j'ai donné la gestion de mon plan d'action de stationnement à l'agence de stationnement en 2014. J'ai dû attendre fin 2017 pour avoir un plan d'action de stationnement, alors que des communes comme Ixelles qui l'ont fait elles-mêmes, ça n'a duré qu'un an, processus participatif compris. Donc, ce que je veux dire, et si on ne veut pas décevoir les citoyens, c'est qu'on doit aller au-delà du slogan, on doit aller dans la mise en œuvre et pouvoir donner des réponses concrètes. Moi, je n'ai pas de souci à ce qu'à un moment donné, on dise... Parce que vous avez raison, on a des programmes politiques qui sont différents. Sinon, on serait tous dans le même parti politique. Mais pourquoi pas demander à nos administrations, 19 administrations, sous la houlette de l'administration régionale, d'à un moment donné mettre en place une vision globale de la région, de la mobilité, et puis qu'après, chaque parti politique, comme vient de le dire Pascal Smet, se positionne en fonction. Moi, j'ai aucun souci par rapport à ça. Puisqu'à un moment donné, il faut que le politique tranche. Vous avez raison. Mais ce n'est pas la vision aujourd'hui qui est malheureusement mis en œuvre, et ça, on peut le regretter. Et je pense, et je parle aussi pour moi-même, qu'on doit arrêter de se rejeter la balle, puisque c'est le principal défaut de cette région, c'est que les communes disent c'est la faute de la région dit c'est la faute de la commune dit c'est la faute d'un tel. Et je pense que c'est aussi ça le bas qui blesse, c'est que si on allait vers des propositions qui étaient beaucoup plus et des collaborations plus positives, je pense qu'on arriverait à faire plus qu'un pas. On arriverait à faire des pas. Voilà. Merci, Monsieur le Président.
Bien. Voilà. Alors, Monsieur le Ministre, merci. Moi, je pense que dans ce débat sur la mobilité, vous l'avez évoqué d'ailleurs, il y a un problème d'échelle d'abord. Et vous l'avez dit. Il est impossible de concevoir une politique de mobilité si deux conditions ne sont pas réunies. Quelle est l'échelle géographique d'une politique cohérente de la mobilité ? Ça, vous l'avez dit et tout le monde l'a dit. Et deuxièmement, quel type de concertation, collaboration peut-on imaginer entre les différents niveaux de pouvoir qui sont impliqués, à moins évidemment de régionaliser toutes les compétences, et on est loin, loin du compte. Donc la communauté urbaine était dans la quatrième, enfin dans la sixième réforme de l'État, elle n'a pas abouti, ça fait partie des suicides collectifs auxquels nous assistons dans ce pays, parce que c'est absurde. Deuxièmement, je pense que comme nous allons avoir des élections régionales et des élections fédérales, ça sera peut-être le moment de voir comment les programmes, mais surtout les programmes de gouvernement, j'entends pas les programmes des partis politiques, peuvent éventuellement s'influencer les uns les autres. Je sais qu'il peut y avoir des asymétries de majorité et tout ça, ça fait partie des plaisirs du pays, mais je pense que c'est important d'intégrer l'idée que la mobilité doit être évidemment approchée par tous les niveaux de pouvoir en concertation. Il y a un acteur de la politique de la mobilité qu'on oublie, mais dont, comme praticien des choses de la quotidienneté urbaine, je constate, c'est le rôle de la police. Alors, nous vivons une crise grave dont personne ne parle vraiment, mais qui va produire ses effets, c'est que nous n'avons pas assez d'agents. Quand je dis agents, c'est agents de la fonction et de la puissance publique. Ça peut être les policiers, ça peut être d'autres fonctionnaires accrédités pour faire et poser un certain nombre d'actes. La crise urbaine qui menace, c'est aussi une crise d'absence du respect des règles et des normes, que ce soit dans le stationnement, que ce soit dans la vitesse, que ce soit dans un tas de domaines. Voilà, la fluidité des carrefours peut être encouragée par la présence, et personne ne parle, ça, tout le monde est de s'en foutre, mais il manque à Bruxelles, à mon avis, 1500 ou 2000 policiers hors cadre, hein, en plus des cadres qui existent, tant on est convaincu de plus en plus que la police est trop absente de l'espace public, à la fois pour combattre certains phénomènes, autres que la mobilité, mais aussi pour participer à la régulation des politiques de mobilité. Voilà, ça c'était mon avis personnel.
Je partage pour le rapport votre analyse.
Eh bien, je vous remercie. Merci à toutes. Une fois encore, merci aux panélistes. Monsieur le maire, on ne peut pas prendre les mêmes pour un autre thème, ça ne va pas, parce que ça ne va pas, hein, ça. Eux, ils connaissent maintenant. Merci. Merci au rapporteur. Confiance au rapporteur. Confiance. Toujours.